On va prendre ce psaume, un seul verset, le verset 4 du psaume 11. L'Éternel est dans le palais de sa sainteté, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux voient, ses paupières sondent les fils des hommes. Il n'est pas long, on le relit. L'Éternel est dans le palais de sa sainteté, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux voient, ses paupières sondent les fils des hommes. Lorsqu'il est question de la vue de sa portée, eh bien nous abordons bien sûr un domaine où il est divers stades, je dirais, de vision. Allez, sur le plan mental, de compréhension. Ainsi, l'homme naturel ne voit que ce qui est, je dirais, visible à ses yeux, à ce qui a de l'apparence. Tandis que la Bible nous dit que Dieu regarde, lui, au cœur, ce que l'homme ne voit pas. Et même jusque à l'infime nature de toute chose, il voit tout. Amen. Il voit tout. Les yeux de Dieu voient, je dirais, tout, contrairement à ce que, eh bien, ceux qui nient l'existence de Dieu, ils sont nombreux. Et Dieu n'existe pas, bien sûr. Il n'est pas également insensible à ce qui se passe ici-bas sur terre. Parce qu'on dit, s'il y avait un Dieu, il verrait. Il y a un Dieu. Et il voit. Il sait, il comprend. Amen. L'Écriture nous dit que tout est à nu devant Dieu. C'est-à-dire qu'il sait tout, il voit tout. Rien n'échappe à son regard. Et l'Écriture nous dit aussi qu'il amènera toutes choses en jugement. Et vous savez par qui? Par son Fils. Celui qu'on appelle le Seigneur Jésus. Ainsi sont les yeux de Dieu. Cependant, ils ne sont pas seulement en souveraineté, en sainteté ou en jugement, ils sont également en amour et en compassion. Amen. On va en avoir la preuve, on va le voir ensemble. Le psalmiste dit ceci, « Les yeux de l'Éternel regardent vers les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. » Puis encore, et pour nous faire quelque peu entrer dans ce qu'il est, il en est de ce regard divin, il est écrit que Dieu pleure, que Dieu verse des larmes. Vous vous rendez compte? Dieu pleure. L'image des larmes nous est donnée pour que nous puissions saisir, dans la mesure bien sûr qui est la nôtre, que Dieu nous aime. Amen. Que Dieu a des sentiments pour nous. Il aime sa créature qui, dans sa folie, eh bien, s'est éloignée de lui justement pour en subir, eh bien, les tristes conséquences. Au départ, tout était beau, magnifique. Le jardin d'Éden. Vivre en Éden, ça ne vous aurait pas plu? Eh oui. Et puis, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu la désobéissance, il y a quelque part la rébellion contre Dieu, bien sûr. Alors, Dieu pleura pour son peuple, pour Israël, pour qui il avait eu tant de soins et qui, justement, dans l'ingratitude la plus complète qui les a caractérisés jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ils l'ont rejeté. Ils ont tourné les yeux vers d'autres dieux qui n'en sont pas. Et bien sûr que ça a tristé Dieu. Ça lui a fait verser des larmes, bien sûr. Par la bouche de Jérémie, le prophète, il va leur adresser ces paroles. Jérémie 14, verset 17. « Tu leur diras cette parole, que mes yeux se fondent en larmes, nuit et jour, et qu'ils ne cessent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, est ruinée d'une grande ruine, d'un coup très douloureux. » Alors ces larmes divines ont été un jour visibles, justement quand le Fils bien-aimé, qui est venu du Père, a commencé à marcher sur la terre. Cela l'a conduit jusqu'à Golgotha en passant par Gethsémané. Là, il a versé des larmes. Amen. Jésus pleura. Il a pleuré devant les conséquences du péché. Il a pleuré à la mort d'un ami du nom de Lazare qui habitait Béthanie. Il a pleuré. Il pleura sur Jérusalem, la ville justement qui, au lieu de l'accueillir comme son roi, va le rejeter pour son plus grand malheur. Jésus a pleuré. Oh, bien sûr, le peuple n'était plus dans l'idolâtrie caractérisée, mais il n'était pas dans un meilleur état devant Dieu, au contraire. Ils avaient ce qu'on appelle la forme de piété, mais il nous dit que leur cœur était éloigné de Dieu, très éloigné de lui. puisqu'il était capable de combattre contre lui. Luc, le médecin qui faisait partie des disciples de Jésus, nous dit que comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Et si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Terrible, hein? Quand on entend tomber, excusez-moi, mais c'est comme un couperet qui tombe, hein? Tu as fait un choix. Bah, maintenant, tu vas en subir les conséquences. Tu n'as pas été assez sérieux. Eh bien, maintenant, il va falloir que quelque part, tu payes. Vous comprenez? Il pleura. Il pleura aussi quand il a accepté de son plein gré d'être fait pécher à notre place, bien sûr, d'en endurer, je dirais, tout le châtiment. Quel châtiment? Prendre sur lui la malédiction qui nous revenait. C'est ce qu'il a fait. Amen. Être rejeté des hommes, subir cette croix, cette couronne d'épines, ce côté qui a été percé, tout ça comme un malfrat, alors que c'était le plus juste que la terre ait connu. Le seul juste, dirais-je. Amen. Les yeux du Seigneur n'étaient donc pas secs. Jésus a pleuré. Il fut en cette occasion ému de compassion en voyant la misère humaine. Nombreux textes en parlent, bien sûr. De toutes parts, il dit qu'on lui a amené des malades, des infirmes, des démoniaques, etc. Et dans son amour, mais également dans sa puissance, eh bien, il répondait à l'attente de toutes ces créatures, ces hommes, ces femmes, ces enfants qu'on amenait devant lui. Et bien sûr, tout au long de son ministère d'amour et de grâce, Jésus a fait une chose, c'est qu'il a levé les yeux vers son Père, avec qui il était en parfaite communion. Moi et le Père, nous sommes un. Ça a choqué les pharisiens de l'époque, ces religieux. Ça les a outrés. Et oui, parce que c'était outrageux de dire qu'on était égal du Père. Quand il a dit au paralytique, hein, « Ami, tes péchés sont pardonnés. » On dit, mais qui est-il? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais il est en train de leur faire passer un message, il ne le voulait pas. Puisqu'il se dressait contre lui, et il était prêt à rebondir sur lui. Vous voyez, donc un petit peu, tout son ministère, il a eu cette communion avec son Père. Il a levé les yeux vers son Père. Sa vie était en ligne directe avec le ciel. Amen. Mais ça ne l'empêcha pas de regarder vers la terre, voyez un petit peu. Bien sûr, de lever les yeux sur tous les fils des hommes, et de les regarder, de les observer. En fait, en lui, tout était parfaitement équilibré. Je dirais divinement équilibré. Il était d'en haut, mais il s'est identifié à nous ici-bas. Tout ça parce que eh bien, nous pouvions atteindre le ciel. Donc c'est quelque part le ciel qui est descendu jusqu'à nous. Ainsi également, il a porté ses regards sur ses contemporains. Il a levé ses yeux sur un père en pleurs dont le fils était possédé par un démon. Il a agi. Il a délivré cet enfant. Il y avait un jour une mère endeuillée, la veuve de Naïn. Là aussi, il a agi. Il a ressuscité son fils. Les aveugles, comme celui de Jéricho, sont venus vers lui et il leur a ouvert les yeux. Tout simplement pour qu'ils voient eh bien, la puissance de Dieu. Des foules également qui étaient sans berger, il a levé les yeux sur eux. Il les a regardés. Il a même fait manger 5000 hommes dans un désert avec 5 pains et 2 poissons. Il a regardé et il est venu au contact des hommes. Il a vu compassion de toutes ces foules qui venaient vers lui. Il a regardé ses disciples, il a levé les yeux sur eux, bien sûr. Il a également vu, et parce qu'il levait les yeux, il avait ce regard sur toute la misère du monde, parce que son cœur était assez grand pour cela. Amen. Un cœur comme celui de Jésus. S'il pouvait y en avoir quelques-uns ici-bas, qu'est-ce que la vie changerait? Alors Jésus n'a pas détourné ses yeux, on le voit, de son prochain. Ses yeux, pleins de compassion, ne se sont pas dérobés également à la souffrance humaine. Quelquefois, on voit, je ne veux rien voir, non, ça je ne peux pas le voir. Mais Jésus a regardé. Son regard pouvait aller même plus profond, jusqu'au mal, afin de le détruire, afin d'apporter la guérison. La fin de son ministère terrestre, bien sûr, s'approchant, il va dresser sa face vers Jérusalem, vers cette croix qu'il voyait déjà érigée pour lui, parce qu'il devait passer par là. Cet homme, on le suivait dès le commencement jusqu'à, eh bien, au moment où il fallait qu'il passe par la croix. C'est ainsi que, dans les derniers moments qu'il a passé avec ses disciples, il a levé les yeux vers le ciel, tout en regardant, bien sûr, ses yeux ouverts sur eux pour les consoler, hein, pour les protéger, pour les recommander à son Père. Et il va adresser cette prière. Jean chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 10. Je les fractionne des versets 16 au verset 26. Père, l'heure est venue. Voyez, il savait. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné tout pouvoir, ou pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je prie, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 16, « Et ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je ne sais pas si vous voyez dans cette prière le regard du Seigneur Jésus sur ses contemporains, mais sur nous, jusqu'à aujourd'hui et plus tard, tant qu'il ne viendra pas chercher son Église, ses yeux, son regard, sa prière, son centre d'intérêt, c'est nous, son peuple, afin que nous soyons un avec lui, comme il est un avec le Père. Amen. Pouvons-nous imaginer le regard du Seigneur quand Judas est venu le livrer par un baiser? Vous connaissez l'histoire? Eh oui. Et celui qui va croiser, ce regard qui va croiser les yeux de Pierre, après que celui-ci l'ait renié. Lui qui disait, Seigneur, s'il faut aller jusqu'à la mort, j'irai. Eh oui. Le Seigneur s'est retourné. Il regarde Pierre. Pierre s'est souvenu de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus l'a regardé. Est-ce que c'était un regard, vous savez comme on dit, hein, un regard avec des balles de mitraillette qui sortent, des flèches? C'était un regard d'amour, un regard de compassion. Hein, Satan vous cherche à évoquer comme le froment, mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Amen. Quelques heures plus tard, plusieurs l'ont frappé, en se dérobant de sa vue, en se moquant de lui comme s'il ne connaissait pas exactement ceux qui justement le frappaient, et lui qui voyait, justement, jusqu'au plus profond de l'âme humaine. Il sait ce qui animait les hommes. Il dit qu'un jour, la foule le suivait, mais il ne se fiait point à eux, parce qu'il savait ce qu'il y avait à l'intérieur de leur cœur. Il voyait là où les hommes ne voyaient pas. Et que dire des heures terribles de la croix où ses yeux se consumèrent devant la haine, hein, la moquerie de ses nombreux ennemis qui étaient venus comme à la fête, parce que c'était cela, hein, on y assistait à la mort de celui qui se faisait roi. Celui qui nous a dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Oui, c'était la fête pour eux, en disant, tiens, eh bien, il est bien beau maintenant. Mais il ne savait pas que c'était le commencement. Il fallait qu'il passe par là. Écoutez un petit peu ces paroles prophétiques, c'est le psaume 69, versets 3 et 4. « Mes yeux se consument pendant que j'attends mon Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants. Ceux que je n'avais pas ravis, je l'ai alors rendu. » Amen. Là encore, je dirais, sa perfection, eh bien, doit nous remplir d'adoration. Amen. Quand on regarde ces premiers psaumes, où tout nous est décrit jusqu'à la mort expiatoire du Seigneur Jésus. Waouh ! Quelle beauté que l'œuvre de Dieu ! Quelle perfection ! Amen. Quand je dis que nous nous remplir d'adoration, oui, dans la souffrance extrême, il pense à qui ? Quand on souffre, on pense à soi. Lui, il pense aux autres, c'est-à-dire qu'il pense aux siens. Et en regardant sa mère, il va la remettre aux soins de son disciple Jean, le disciple qu'il aimait. Vous voyez ? Pas que les autres ne l'aimaient pas, mais il y avait un amour particulier entre Jean et lui. Et également, les yeux du Seigneur sont sur nous, chaque jour, bien sûr, même si nous ne voyons pas avec notre nature humaine, même lorsque nous faillissons, hein, dans la chute, il ne va pas se détourner de nous. J'ai failli, ça y est, je suis disqualifié. Maintenant, la Bible nous dit que si nous nous repentons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Alors, dans la chute, il ne se détourne pas de nous. Et par la foi, eh bien, nous pouvons faire la même expérience que Pierre, qui a été saisi par le regard de son maître. Un regard d'amour, un regard miséricordieux, un regard plein de bonté. Le Seigneur devait lui dire dans ce regard, « Pierre, n'oublie pas, je te l'ai dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Toi, tu es présomptueux, capable. Hein? Oui, mais non, mais j'ai prié pour toi. Amen. » Alors toutefois, prenons garde, car le regard du Seigneur, ou les yeux du Seigneur, sont aussi comme une flamme de feu. Eh oui, pensons pas que cela est seulement justement pour les incrédules. Nous avons tous, et je dirais d'autant plus si nous sommes chrétiens, à rencontrer les yeux, le regard du Seigneur comme une flamme. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en lui, rien n'est caché. Pour lui, rien n'est caché. Il voit tout. Il sait ce que je pense en ce moment. Donc, j'ai intérêt de bien penser. À Valence, il y avait un décalage de plancher entre le pupitre et l'estrade. Et il y avait un petit écrit là. Vous ne savez pas ce qu'il y avait écrit ? Tu le sais, non ? Mon frère, Dieu te regarde. Waouh ! Quand tu prêchais, tu levais un peu les yeux, tu voyais ça. Mon frère, Dieu te regarde. Aïe, aïe, aïe. Mais non. Mais oui, c'est la vérité. Hein. On a besoin de savoir que Dieu nous regarde. Amen. Pierre dit que les yeux du Seigneur, ils sont sur les justes. Et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Enfant de Dieu, pas de mal. On ne doit pas faire le mal. Amen. Parce que la face du Seigneur est contre nous si nous faisons le mal. Amen. Donc, faisons le bien. Jean a eu la vision du Seigneur glorifié. Et il dit que sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux, comme une flamme de feu. Ça brûle partout dans la région. Il y en a qui ont tout perdu. Imaginez le regard du Seigneur. Ses yeux comme une flamme de feu. Quelquefois, on imagine un petit peu les choses. Et moi, j'imagine le rayon laser. Les yeux du Seigneur, deux rayons, paf! Là où ça frappe, ça fait mal. Hein, puisque maintenant, avec les rayons laser, on s'est découpé même de la ferraille ou du fer ou de l'acier très épais. On disloque et on éclate des blocs de pierre. Vous vous rendez compte un petit peu? Ses yeux comme une flamme de feu. À l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, il fait écrire: voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Amen. Donc, c'est la réalité. Le feu, qu'est-ce qu'il fait, le feu ? Il détruit, et il brûle. D'accord ? Mais il purifie aussi le feu. On a des bébés à la maison, il faut en avoir un de plus là, mais on fait stériliser les biberons et on se sert du feu pour faire chauffer l'eau. Vous voyez ? Alors le feu, bien sûr, a cette particularité, eh bien, de brûler. Mais pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que va faire le feu ? Le feu de l'Esprit de Dieu. Là, cette flamme de feu là, qui sort des yeux du Seigneur, c'est pour nous purifier. Vous vous rappelez la Pentecôte ? Ces langues semblables à des langues de feu. Est-ce que les ont consumées sur place, là ? Pierre, t'es un pécheur. Paf, t'as renié le Seigneur. T'es, bien fait pour toi. Consumé. Non. Ils sont sortis plus beaux que quand ils sont rentrés dans cette chambre haute. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été purifiés. Ces langues de feu, c'était le feu purificateur. Amen. Alors on a besoin que ce feu il passe dans nos vies. Alléluia. Parce qu'on sait, on a compris que les yeux du Seigneur sont sur nous. Il nous voit. Amen. Et bien sûr, ce n'est pas pour aller nous condamner. Condamner, on l'est déjà quand on a mal fait. Mais c'est surtout pour nous dire, avec quelque part ce désir de nous encourager, je te vois. Mais toi, je te foudroie pas. Mais je te dis qu'il faut que tu passes par un autre chemin. Amen. Les yeux du Seigneur n'agiront pas de la même manière, je dirais, sur les incrédules que sur ses rachetés. Cependant, il est le Tout-Puissant. Il est le Saint. Il est le juste juge. Et pour ceux qui, par exemple, l'auront rejeté, eh bien, ce sera le feu destructeur. Les temps de feu et de souffle. Le feu du jugement. Pour les graciés, qui c'est les graciés ? Il n'y a pas de piège, hein ? C'est nous les graciés. Hein ? On était condamnés, on était coupables, et puis on a reçu la grâce de Dieu. Donc on a été graciés. Amen. Alors pour les graciés, les yeux du Seigneur seront comme un feu purificateur, révélateur de la réalité, de la profondeur justement, de leur foi, mais également de l'amour du Seigneur. Il nous a aimés dès le commencement. Alors comme le feu purifie, par exemple l'or, hein, qui est chauffé à trop haute température, bah, le libérer de ses impuretés justement, eh bien le Seigneur jugera les siens, pour ceux qu'ils auront fait ou ceux qu'ils n'auront pas fait. Amen. C'est sérieux l'œuvre de Dieu, non ? Bien sûr que c'est sérieux. Alors regardons nos cœurs. Sondons-les réellement, hein, de tous nos actes, toutes nos paroles, tout notre comportement, bien sûr, nos mobiles. Hein. Ce n'est pas ce qui a beaucoup d'apparence, dirais-je, ou qui prend beaucoup de place aux yeux des hommes, qui aura automatiquement une récompense, parce qu'il y a les mobiles derrière. Et pourquoi ? Eh oui, le Seigneur regarde juste lui à nos cœurs, ça il ne faut pas l'oublier. Et demeurons donc, ou demandons plutôt au maître de voir comme lui, il voit les choses. C'est important, hein ? Comme lui, il voit les choses. De mesurer comme lui, il les mesure. D'avoir conscience que ses yeux sont sur nous. Et que quand nous serons bientôt face à lui, bien sûr, hein, eh bien, que ce regard ne soit pas un regard qui nous condamne. Mais un regard qui nous regarde avec joie et bonheur. Il dit, allez, entre dans la joie de ton maître. Amen. Bon et fidèle serviteur. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur des yeux de Jésus, hein, à moins que vous fassiez le mal. Alors là, ayez peur de cela. Hein. Mais si vous obéissez à sa parole, ses yeux sont là pour vous bénir, sont là pour vous encourager. Quand vous avez le regard du Seigneur qui croise le vôtre, ben, je crois que ça fait du bien, hein. Quand vous avez le regard, par exemple, de quelqu'un qui vous approuve, hein, vous regardez. Puis, des fois, nous, serviteurs de Dieu, on cherche un regard accroché. Vous dites, tiens, celui-là, il me regarde bien, je vais le regarder. il a l'air d'accuser, c'est bon. Allez, regarde celui-là. Non, il faut regarder toute la salle. Hein. Mais on a besoin, quelquefois, hein, nous aussi, d'être encouragés. Et puis, le regard de quelqu'un qui nous sourit, qui dit amen, on le sent. Hein. Voilà, il est tout cœur avec moi dans la prédication. Ça fait du bien. Amen. Alors, on a besoin. Eh bien, d'encouragement. Qui peut nous encourager mieux que le Seigneur ? Sachant que son regard, lui, il n'est pas trompeur. Amen. Je parlais de quoi dimanche ? Je parlais justement de ce phénomène-là où quelques-uns vous flattent. Mais il faut se méfier de la flatterie. D'accord ? Quelqu'un qui vous aime va vous le démontrer. même si vous êtes dans l'erreur, avec amour, il saura vous le dire. Il ne va pas vous flatter pour que vous continuiez dans l'erreur. Au contraire, il saura vous le dire. Amen. Et c'est ça. On a besoin de vérité. Et le regard du Seigneur, c'est un regard de vérité, juste, droit, honnête. Amen.